Avec l'histoire qui va suivre, nous sortons quelque peu du western. L'œuvre de Harrison, ici précisément Legends of the Fall, nous nous trouvons plus dans une inspiration western. Effectivement, on retrouve l'état du Montana, très présent dans le texte, état de l'ouest américain, même du nord-ouest américain. On retrouve l'ambiance ranch, les chevaux, les grandes étendues, les paysages. Mais nous n'avons pas vraiment affaire à des cow-boys. Par contre, nous avons vraiment affaire à des Indiens. Legends of the Fall est écrit par Jimmy Harrison à la fin des années 1970. On y trouve une écriture violente dans son contenu, des personnages dévorés d'obsessions quasi primales, des personnages complexes et transformés, et par moments, épris d'une tendresse presque douloureuse. On peut voir dans Jimmy Harrison un apôtre de la mythologie du Nouveau Monde, du Nouveau Far West, du devenir des grands espaces, des œuvres habitées par le vent, les nuages, le passage des saisons, les forêts. Cette histoire se passe au fin fond du Montana, dans un petit village, un ranch même, où grandissent trois frères, Tristan, Alfred et Samuel. Ils grandissent avec plusieurs personnes, leurs parents, Isabelle et Ludlow, propriétaires du ranch, et des commis, et plus que ça, des bras droits du père, Decker, un ancien malfrat qui a trouvé refuge ici. Un coup, un Indien, qui vit là depuis plusieurs années aussi, avec sa fille Pet, mariée à Decker. L'histoire commence au moment où les trois frères partent à la guerre. Ils prennent le bateau pour l'Europe et vont se battre du côté des Français entre 14 et 18. Enfin, entre 14 et 18, disons plutôt au début des intercations. En effet, assez vite, une nouvelle tragique parvient à la famille. Les nouvelles mirent plusieurs semaines avant d'atteindre le Montana. Par un après-midi de février froid et ensoleillé, l'un des employés du ranch conduisit Pet à Choteau pour acheter des provisions et prendre le courrier. Ludlow essuya le givre qui couvrait la fenêtre de la cuisine et regarda rêveusement l'ombre bleue de la grange projetée sur la neige par un maigre soleil. Decker et Incou étaient assis à la table et buvaient un café en comparant les altitudes des montagnes sur des cartes étalées devant eux. Incou corrigeait les chiffres que lui citait son ami. Il connaissait bien cette région qui va de Browning à Missoula, pour l'avoir parcouru en compagnie d'un ami Cree, qu'on appelait respectueusement « celui qui voit comme un oiseau ». Cet homme possédait une perception étonnante des reliefs du territoire, mais un coup n'aimait pas les chiffres attachés aux montagnes. À quelle hauteur se trouve-t-elle au-dessus des sept mers? Quelle importance, puisqu'il n'y a pas de mer à proximité. Un coup estimait qu'il existe de grandes montagnes sans caractère, tandis que d'autres, plus petites, sont des endroits nobles et sacrés, où des sources jaillissent pour le bonheur de tous. Un coup interrompit cette discussion pour demander à Decker de lui lire un passage de « Entre les griffes du Nyaka » de G.H. Patterson. Ce colonel anglais était aussi l'auteur de « Mangeurs d'hommes » était aussi l'auteur des « Mangeurs d'hommes » des Tsavo. Et les deux livres traitaient d'aventures de chasse et d'exploration en Afrique orientale. Decker était las de lire et de relire ces livres à un coup. Mais Tristan avait inauguré cette habitude de nombreuses années auparavant. Un coup fermait les yeux, avec satisfaction, en écoutant ses passages favoris. Celui où les lions se précipitent sur un wagon à plateau pour dévorer les employés du chemin de fer. L'histoire de cet éléphant solitaire, à qui il ne restait qu'une seule défense, et qui éventra un cheval nommé Aladdin, et surtout, la meilleure de toutes, celle des rhinocéros qui mouraient en grand nombre en chargeant des trains qui traversaient leur territoire. Pour un coup, ce passage évoquait la vision des milliers de bisons attaquant le North Pacific et le faisant dérailler. Cette scène assez quotidienne vient juste avant une nouvelle tragique, la mort de Samuel, le dernier fils, le Benjamin de la fratrie. À la suite de cette nouvelle, tout le monde s'enterre dans une tristesse terrible, le père et surtout l'aîné des fils. L'aîné des fils va vouloir venger son frère, il va s'attaquer à un colonel. Suite à cela, il est mis en prison. En prison, il pense à une seule chose, s'évader, et il y arrive assez vite. Après cela, sa seule idée est de s'enfuir de l'Europe et de revenir le plus vite possible aux États-Unis. Alors, il vole un cheval et il s'en va à travers la France, jusque sur la côte bretonne pour prendre un bateau, un vaisseau qui va le ramener aux États-Unis. Enfin, pas vraiment. Le vaisseau le ramène dans un port, et dans ce port, Tristan sait que son grand-père habite depuis plusieurs années. Alors, il va aller voir son grand-père qui est lui aussi matelot, et s'arranger avec lui pour partir en expédition. Et donc, ce qu'il ne savait pas, c'est que le grand-père participe d'un commerce quelque peu, douteux. Assez vite, Tristan se rend bien compte que ces affaires douteuses peuvent rapporter beaucoup d'argent. Alors il en met de côté, et un jour, il revient au ranch. Ludlow et Incou étaient assis sous la véranda et écoutaient une symphonie transmise par la radio. Il est difficile de décrire le ravissement muet de Ludlow lorsqu'il vit apparaître le cheval de Tristan, qui cherchait un chemin entre les plaques de neige fondues. Tristan sauta à terre et eut à peine le temps de recevoir le poids de son père qui lui tomba littéralement dans les bras depuis les marches de la véranda. Tristan ne put que répéter le nom de son père, mais celui-ci, rendu réellement muet par son attaque, ne pouvait lui répondre. Incou regarda le ciel et sentit couler les premières larmes d'une existence si rude qu'elle en devenait presque aussi abstraite que le ravissement de Ludlow. Puis, Incou entonna un chant. Dekker arriva en courant, étreignit Tristan, et l'un et l'autre essayèrent simultanément de se soulever du sol. En entendant ce bruit, Pet sortit de la cuisine et amorça une révérence que Tristan interrompit par une grande embrassade. Une jeune fille de 16 ans, vêtue de vêtements masculins et les cheveux noués en une longue natte, arriva avec une bride à la main. Son teint ambré était moins indien que fouetté par le vent. Elle fixa Tristan, puis perçut son regard, et elle s'en alla sans parler. Tristan se mit à faire les 100 pas sur la pelouse, puis annonça qu'il partait pour une promenade à cheval et espérait qu'il ne serait pas complètement ivre lorsqu'il reviendrait pour leur dîner. Il galopa jusqu'à la crique, près de la source dans le canyon. Les restes d'un tas de neige recouvraient la tombe de Samuel, et une pie s'envola de la pierre lorsqu'il descendit de cheval. Il suivit la trace invisible que laissait l'oiseau dans le ciel du canyon. Il constata que les tombes ne lui inspiraient pas le moindre sentiment. Il ne voyait devant lui que de la neige, de la terre et une pierre rongée par le temps. C'est suite à ce retour quelque peu périlleux que Tristan va rencontrer Isabelle. Isabelle, non plus sa mère. Isabelle qu'on appelle Deux, qui est la fille de Pet et d'Eker, de sang indien donc, parce que Pet est indienne, et qui va devenir petit à petit sa compagne. Il va même avoir 3 enfants avec lui. Mais assez vite, la chute est initiée par la Grande Dépression, dépression économique qui va pousser le père à vendre plus de la moitié de son bétail et de garder que les bêtes de concours. Alors, pour assurer la survie du ranch, Tristan va décider de reprendre ses vieilles affaires de contrebande. Il y a peu de choses à dire au sujet du bonheur. Il se contente d'être lui-même, placide comme presque somnolent. C'est un état que l'on adopte d'un cœur léger, mais avec un esprit parfois torturé. Le malheur s'abattit de nouveau sur Tristan au retour d'une expédition sur Great Fall où il conduisait un troupeau au chemin de fer accompagné des hommes du ranch et de Deux. Ce fut un voyage d'autant plus agréable qu'il fut mené à la mode d'autrefois. On était en octobre et la bourse venait de s'effondrer. Tristan parvint tout de même à obtenir un peu d'argent pour son bétail et tous, c'est-à-dire Deux, Tristan, Dekker, le Cri, à demi noir et un Norvégien, qui faisait partie de l'équipe de charpentiers venus quelques années plus tôt, décidèrent de rester en ville pour fêter la vente. Ils s'offrirent un magnifique repas au meilleur restaurant de la ville, burent de nombreuses tournées, mais furent un peu intrigués par l'élégance et la richesse évidente de l'équipe du ranch voisin qui venait de gagner un gros paquet d'argent en ramenant du Canada un stock d'alcool de contrebande, défiant ainsi la nouvelle loi Volstead sur la prohibition. Ils formaient une étrange procession dans l'étroit canyon qui s'ouvrait près de Choteau. Les chevaux suivaient la packyard qui avançait au ralenti, s'enlisant parfois dans les bouts d'octobre. À la sortie du canyon, près de l'endroit où la route tourne au nord, vers Choteau, ils furent arrêtés par la loi. Une loi représentée par 2 hommes en armes et un coupé Ford qui bloquait la route. Les officiers fédéraux tirèrent en l'air, ainsi qu'ils en avaient vaguement reçu l'ordre. La procession fit halte sans rien perdre de sa bonne humeur. L'officier fédéral principal avait entendu parler du chargement et envoyé ses hommes pour les confisquer. Ils reconnurent Tristan et lui dirent en s'excusant presque qu'il devait se présenter devant le tribunal d'Helena en novembre, mais que, dans l'immédiat, il avait l'ordre de détruire l'alcool qu'il transportait. Soudain, Tristan entendit un long gémissement, de un coup, et se retourna. Vit Deux, assise à l'arrière, au milieu des cadeaux et des paquets. Elle semblait muée, en statue de pierre. En ricochant sur une paroi du canyon, une balle l'avait frappée en plein front, laissant une trace rouge à peine plus grande qu'une pièce de monnaie. Tristan devint subitement enragé, voulut saisir le pistolet qu'il ne portait pas sur lui et se mit à frapper les officiers avec tant de brutalité que l'un des Deux resta dans le coma pendant plusieurs mois. Puis Il prit le corps de deux dans ses bras et se mit à courir vers le bout du canyon. La procession le suivit, tandis qu'il courait ainsi sur des kilomètres, trempé par la pluie froide, serrant le cadavre contre sa poitrine et poussant, parfois des hurlements et des imprécations, dans une langue inconnue sur cette terre. Suite à cet épisode, Tristan repart du ranch, va retrouver le bateau de son grand-père, sans son grand-père qui est trop vieux pour pouvoir naviguer, et reprend les affaires de contrebande, toujours plus périlleuses, toujours plus dangereuses. Lorsqu'ils s'ancrèrent à nouveau en Californie, lors du voyage suivant, ils s'arrêtèrent dans la baie de Tomal, près du pont Reyes. À l'aube, un canot à moteur s'approcha de leur mouillage, mais ils étaient prêts. Les hommes du canot ignoraient que Tristan avait déjà débarqué sa cargaison à quelques milles du nord. Tristan et le Mexicain regardèrent venir le bateau, caché sous des bâches mouillées. Le Norvégien et le Cri étaient dans le carré, prêts à constituer une seconde vague d'assaut en cas de besoin. Depuis l'embarcation, un homme arrosa le rouf d'une brève rafale de mitraillette. Aussitôt, Tristan et le Mexicain ouvrirent le feu avec un .375 et un fusil à éléphant. Tristan reconnut deux des hommes qui les avaient attaqués à San Francisco. Et c'est sur eux qu'il déchargea les 500 plombs des cartouches destinées aux plus grands mammifères de la Terre. Les hommes éclatèrent littéralement hors du canot. Le Mexicain défonça la ligne de flottaison, puis il visa posément les têtes des deux survivants qui nageaient maladroitement autour des débris. Alors, il tira. Lorsqu'on se trouve près de Choteau, sur la route de Ramshorn, on passe devant l'entrée d'un ranch que dirige maintenant le fils d'Alfred. Toutefois, l'accès est prohibé. C'est devenu une entreprise moderne qui fonctionne efficacement. Avec un peu plus loin, dans le canyon... Mais un peu plus loin, dans le canyon, on trouve quelques tombes qui ont une grande signification pour quelques survivants. Il y a les sépultures de Samuel, deux, et Susanna. Et légèrement en retrait, Ludlow est enseveli entre ses deux meilleurs amis, Incou et Isabelle. Decker et Pet reposent en contrebas. Toujours isolés, résolument à l'écart, un peu seul peut-être, Tristan est enterré quelque part en Alberta.